À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une femme du siècle dernier absolument exceptionnelle, une carmélite de Paris, Dorothée Quoniam, en religion sœur Marie-Aimée de Jésus. Elle a été, bien qu'elle soit morte toute jeune, à 34 ans, un des plus extraordinaires défenseurs de la divinité du Christ qui a été fortement attaqué par un ouvrage retentissant du siècle dernier toujours, La fameuse vie de Jésus d'Ernest Renan, que l'on peut trouver dans les éditions Marabout avec une présentation intelligente, intéressante de Pierre de Bois d'Effre. Dorothée Quoniam, ça peut vous surprendre ce nom Quoniam, c'est un mot latin. C'est un surnom de chantre, ce Quoniam. Ça vient de ce fameux verset du psaume 146, Laudate Dominum, Quoniam bonus est. Quoniam, ça veut dire parce que, n'est-ce pas? C'est dans le psaume 146. Il y a d'autres noms en France comme ça qui viennent de mots latins, qui sont tirés de la liturgie et qui étaient appliqués probablement à d'autres chantres, comme le mot Agnus, comme Agnus Dei. Quelqu'un qui chantait, j'imagine, très très bien des Agnus Dei dans les églises. Il y a même le nom de famille Clamamus, et puis il y en a bien d'autres. Dorothée Quoniam a donc écrit ce livre assez étonnant. C'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en deux volumes, pour répondre à Ernest Renan. C'est publié chez Téqui à Paris, on peut se le procurer. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, deux volumes. Il y a aussi une biographie de cette femme, de cette religieuse, qui a été publiée à partir des notes de son journal, sous le titre « Une page du grand livre de la miséricorde de Dieu ». C'est publié par des carmélites du Carmel d'Évry, mais il y a bien longtemps, 1955, et c'est en deux volumes. Or, l'ouvrage qui est paru tout récemment, chez Pierre Téqui, est un petit livre avec une introduction très intéressante de nul autre que d'Edith Stein, qui a été béatifiée par le pape. Une juive convertie, allemande, très grande philosophe, disciple de Husserl, le grand phénoménologue, et puis Edith Stein a dû fuir l'Allemagne pour aller en Hollande, où elle a été, avec tant d'autres religieux, près de 500 religieux et religieuses catholiques d'origine juive qui ont été exécutés par les nazis en 44, je crois. Or, cet ouvrage qui est publié chez Pierre Téqui de Dorothée Quoniam, avec préface ou introduction d'Edith Stein, c'est la psychologie du Christ. C'est un essai de spiritualité et de mystique. C'est une partie, donc, de l'œuvre considérable « Jésus-Christ et le Fils de Dieu » en deux volumes. Dorothée Quoniam était carmélite au Carmel de l'avenue de Saxe à Paris. Il n'existe plus. Maintenant, il y a un Carmel depuis 1928 à Montmartre. Sur l'avenue de Saxe, ou près de l'avenue de Saxe, il y a des Clarisses maintenant. Elle a donc vécu de 1840 à 1874. Elle avait été bouleversée d'apprendre la publication donc de l'ouvrage de Renan, intitulé « La vie de Jésus » en 1863, puis elle a décidé d'écrire sa propre vie de Jésus. Alors on imagine facilement que l'entreprise, c'était pas facile, parce que cette jeune religieuse de 23 ans n'était armée au fond que d'un crayon, puis de bien peu de papier qui était très économisé, elles étaient pauvres. Elle a dû affronter pour obtenir les autorisations nécessaires de sa prieure et des autres, et d'un prêtre. Elle a dû trouver le temps voulu, soit une heure chaque jour pendant 5 ans. Avec toute documentation, imaginez un évangile. C'était comme si c'est David, vous savez, qui affronte Goliath. C'était, personne n'était moins, plus démuni, ou moins démuni que Dorothée Quoniam. Elle se mesure avec Renan, donc, qui lui est mort en 1892. Il était un ancien séminariste. Il avait fait 2 ans au grand séminaire, puis il avait perdu la foi par la suite. Il était titulaire de la chaire d'hébreu au Collège de France. Il en est même devenu le directeur. Mais c'était un affrontement qui n'a pas été public, évidemment, entre la fameuse vie de Jésus puis le texte de cette religieuse. En somme, cette carmélite se dresse contre... vous savez, l'arianisme, je vous en ai déjà parlé, en particulier en parlant de saint Athanase, archevêque, patriarche d'Alexandrie, je vous ai fait ça il y a bien longtemps. Athanase a défendu la divinité du Christ à laquelle l'Église croit toujours. Renan se levait comme un nouveau Arius prêtre qui niait la divinité du Christ, comme on le fait aujourd'hui dans certains ouvrages. Et cette carmélite a écrit un étonnant chef-d'œuvre, on peut dire, aussi remarquable par sa profondeur spirituelle que par la perspicacité des analyses, puis la beauté. Oh, c'est surprenant dans l'expression. Il faudrait que j'aie le temps de vous en lire des brefs passages. En somme, rappelons que Renan, mais il a fait école, hein, et cet ancien séminariste a trouvé des disciples, non plus seulement chez les laïcs, mais aussi aujourd'hui, plus que jamais, même dans l'Église, chez certains théologiens, oui, même à Montréal. J'ose le dire, et puis pourquoi ne pas le dire? Ils le disent en onde qu'ils ne croient pas à la divinité du Christ. Des livres à succès ont repris les thèmes de Renan, et peu à peu, la divinité du Christ est devenue une question disputée entre catholiques, depuis bien des années déjà. On explique que la conception virginale n'a jamais fait l'objet d'une définition solennelle, comme je vous l'ai dit dans mon émission sur les dogmes, puis que la méthode historique irait plutôt dans le sens d'une virginité spirituelle, ce qui a permis à la Sainte Vierge d'avoir de nombreux enfants de Saint Joseph. L'apôtre Saint Jean, pourtant, avait dit quelque chose, hein, dans sa première épître au chapitre 2. Vous pouvez retracer le texte. « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ, le voilà l'Antéchrist. Il nie le Père et le Fils. » C'est Saint Jean. Dorothée Conyam n'a pas écrit que pour les carmélites, et on trouvera ici, dans ce livre, une partie de son mémorable travail, qui porte sur l'âme du Christ, son intelligence, sa volonté, sa mémoire. C'est étonnant qu'une jeune carmélite puisse écrire tout ça. Ça constitue un ensemble absolument remarquable de spiritualité et de psychologie sous la lumière de l'Évangile de la Révélation. Et Edith Stein, la bienheureuse Edith Stein, qui admirait l'œuvre de sa sœur en religion, car elle était carmélite elle aussi, elle est devenue carmélite, n'est-ce pas, lui a consacré un long article, dont je vais m'inspirer pour vous en parler. Dorothée Conyam ne fait pas état de révélations privées. C'est pas ça du tout. Elle propose une lecture objective de l'Évangile, sous le regard de la foi. Et la théologie, comme science, se sert de la raison, ça je vous l'ai souvent expliqué. Elle doit utiliser les progrès de l'analyse de la Bible, de l'exégèse, qui sont au service d'une lecture de ce que Dieu nous a révélé. Mais c'est la prière qui est le milieu propre du travail qu'exerce un théologien et qu'exerce Dorothée Conyam. La nouvelle façon de croire en Jésus de nos jours, qui nie sa divinité, même chez nombre de catholiques, c'est une origine spirituelle. Et c'est pourquoi le message, il me semble, de Dorothée Conyam est d'actualité. On voit chez elle comment l'amour procède pour allier la raison et la foi dans la recherche de la vérité, en usant peut-être de moyens bien pauvres. Mais la richesse du savoir humain est bonne. Puis l'exemple du père Lagrange, dont je vous ai parlé le 10 mars dernier, l'émission 420, le fameux père Lagrange. Mais c'est ici un modèle, le père Lagrange. Ici, il a su répondre d'ailleurs à Ernest Renan dans des ouvrages très savants, comme le père de Grand Maison aussi. Mais on admire qu'avec des moyens aussi dépouillés, cette jeune carmélite de la rue de Saxe à Paris a pu réaliser un exploit absolument phénoménal. On peut penser que c'était le fait de vivre avec celui dont l'Évangile ne cesse de parler, qui est Jésus. Lui, ça lui a donné une connaissance, on peut dire, surnaturelle, connaturelle, d'un trésor aujourd'hui en péril, même chez les catholiques. Edith Stein, dont je vous ai parlé le 9 août 1995, et j'y reviendrai, écrit qu'elle avait un fin visage, d'une pureté et d'une spiritualité angélique, cette Dorothée Conyam, de grands yeux au regard doux et profond, et qui puise la connaissance dans le monde qui dépasse la terre, comme dans leur patrie naturelle. Et Dorothée Kwanyan, donc, est reçue au Carmel sous le nom de Marie-Aimée de Jésus, comme je vous ai dit. Et ce nom exprime bien le mystère de sa vie, aimée de Jésus, dès le premier jour de sa vie. Oui, c'est absolument étonnant, l'enfant qu'elle a été. Elle était déjà entourée d'un amour de Jésus, d'un amour immense, un amour jaloux, qui le voulait tout à lui. Et son lieu de naissance était simplement une cabane de bois, ou toit de chaume, dans un village normand, comme Sainte-Thérèse Enfant Jésus, un village normand du Rosel. Ça peut se comparer, même cette pauvre cabane, à la pauvreté de l'étable de Bethléem. Son père travaille dur comme jardinier, puis prend des jobs à la journée. Mais il n'arrive pas à arracher sa famille à une misère épouvantable. Heureusement, il a une foi profonde, il aime sa femme, ses enfants d'un amour vrai, respectueux. Sa mère, Dorothée, a seulement appris à lire et à écrire, et pourtant elle connaît très très bien la vie des saints. Elle éduque ses enfants avec toute la bonté que sa fille peut voir, à tel point que sa fille peut voir en elle, comme elle le dit, une image de la très sainte Vierge. Alors Dorothée est entre bonnes mains. Elle est née le 14 janvier 1839, en la fête, cette année-là, du Saint-Nom de Jésus, dont elle va porter le nom. À sa naissance, elle est si faible qu'on l'ondoie d'urgence, on la baptise rapidement, hein. Et par la suite, elle reprend des forces, elle peut survivre, et le nom de Jésus est le premier mot que ses lèvres apprennent à prononcer. C'est ce que lui raconte sa mère. Sa mère lui rend le ciel presque plus familier que la terre, hein. Sa mère est inépuisable dans ses récits de vie de saint, puis cet enfant, Dorothée, est insatiable dans son désir de les entendre. Il y a 4 ans, elle entend de la bouche de sa mère le mot « très haut », et ce mot étrange la saisit. Très haut, très haut. Comme elle le fait souvent, elle cherche à se retirer à l'écart pour méditer ce qu'elle a entendu, quand tout à coup, elle est arrêtée sur le seuil de leur chaumière, comme par une force invisible, et les yeux fixés vers le ciel dehors, là, elle répète continuellement en elle-même le « très haut, le très haut ». Puis, elle abaisse son regard sur son propre moi, puis elle dit « je suis si petite ». Oui, c'est ce qu'elle se dit. Et soudain, comme elle le raconte elle-même, elle dit « l'esprit de mon bien-aimé m'a élevé dans les hauteurs inaccessibles, non une fois, mais plusieurs fois jusqu'au très haut, seul Dieu en 3 personnes. L'Esprit Saint, comme l'aigle maternel me tenait, mon petit aiglon entre les serres de sa charité, afin que je soutienne les feux du soleil de justice et que je reste en présence du Père, dans lequel m'apparaissait son Fils et que je supporte cet excès de bonheur et de gloire, d'apprendre que j'étais destinée, moi, chétive et petite créature, à devenir l'épouse de mon Sauveur, pourvu que j'y consente. Et j'y ai consenti, et j'étais fiancée à mon bien-aimé. » C'est une expérience évidemment étrange, dans laquelle entre beaucoup d'imagination, mais c'est une grande grâce qu'elle a reçue. Nous allons faire une pause pour écouter de César Franck, ce grand compositeur français d'origine belge, qui est né à Liège en 1822, un extrait des 7 paroles du Christ, c'est « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En parlant de la vision que la petite fille Dorothée Kwanyan a eue toute jeune, la bienheureuse Edith Stein écrit « Ce n'est pas là, à mon avis, le rêve d'une vive imagination, mais l'avènement décisif de sa vie. Dès lors, elle se considère comme la fiancée du Seigneur, la propriété exclusive de Dieu. Bientôt, elle va apprendre qu'elle est fiancée au crucifié. Et déjà, au cours de ses jeunes années d'enfance, avait commencé la chaîne de souffrances qui ne devait se rompre jusqu'à sa mort à 34 ans. La misère contraint son père donc à accepter une offre assez extraordinaire de son frère, de venir s'installer avec toute sa famille à Paris pour qu'il puisse l'aider plus efficacement. Comme quoi, les chrétiens s'entraident, n'est-ce pas? Et au lieu de vivre librement la campagne, bien Dorothée Kwanyan doit demeurer maintenant dans une mansarde, au 8e étage d'une maison de rapport. On enlève à Dorothée son costume de paysanne pour en faire une petite parisienne. Elle n'aime pas tellement ça. Elle en souffre. Mais les autres membres de la famille acceptent sans rien dire, ne se plaignent pas, mais ils auraient mieux aimé demeurer comme de simples paysans. Alors, Dorothée porte sa souffrance, en silence, quoi. Et bientôt vont survenir des épreuves plus rudes encore. Mais ce qu'elle possède de meilleur, c'est Jésus. Il l'a accompagnée. Il l'accompagne toujours. Jésus qui lui parle dans son cœur. Il y a aussi sa mère, et en qui elle sent la présence du Seigneur lui-même. Elle est la confidente de la vie intérieure de son enfant, cette mère. Mais il y a beaucoup de choses particulièrement les plus dures souffrances que seul connaît son fiancé Jésus. La petite Dorothée sait déjà garder le secret de celui qu'elle appelle son roi. Et sa mère respecte son secret. Sa mère devine beaucoup de choses qui sont inexprimées. C'est une sorte de sainte, sa mère. Elle comprend clairement quel trésor Dieu lui a confié, puis elle fait de son mieux pour aider le travail de la grâce dans l'âme de sa petite fille, la petite Dorothée. Et bientôt commence un apostolat précoce, et à 6 ans, Dorothée est confiée comme externe aux sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul, de la paroisse de Saint-Roch à Paris. La richesse de son monde intérieur la pousse à partager avec les plus pauvres qu'elle, évidemment. Et pendant les temps libres, elle sait parler de Jésus et de Marie d'une façon captivante déjà. Et ses petites compagnes, c'est curieux, elles se rassemblent autour d'elle et puis se fatiguent pas de l'entendre. Elle a encore d'autres amis qu'elle essaie de gagner à Dieu. Quand Madame Cognam, sa mère, marche dans les rues avec sa petite fille, elle remarque que toutes sortes de personnes, grandes et petites, saluent son enfant avec des marques d'affection puis de respect. Ce sont les pauvres auxquels la petite donne une part de ses propres repas et qu'elle nourrit en même temps d'un bon mot. Elle a, c'est étrange chez un enfant comme ça, mais ça existe, un zèle ardent pour la gloire de Dieu. Et elle observe avec pénétration le comportement des hommes. Elle est heureuse lorsqu'ils rendent gloire au Seigneur. Mais elle pleure de douleur quand il s'en moque. Ça l'affecte beaucoup. Un sentiment d'horreur l'avertit d'ailleurs lorsqu'elle rencontre des gens qui vivent dans le péché. Dorothée Cognam est saisie d'un ardent désir d'aller au désert et de même souffrir le martyre. Ainsi, ça ressemble à Thérèse d'Avila quand elle était jeune. Mais bientôt, un autre but s'offre à ses désirs. Elle entend dire que la mère de Dieu est morte d'amour. Marie serait morte d'amour. Alors elle aussi, elle voudrait mourir d'amour. Puis, elle n'est plus capable de cesser de prier pour obtenir de mourir d'amour comme la Sainte Vierge. Et celui qui brûle de zèle pour la gloire de Dieu provoque inévitablement une intervention d'un adversaire. D'un adversaire farouche, ce démon. C'est l'ennemi de tout ce qui est bien. Et cela dès l'origine de l'apparition de l'homme et de la femme, qui les premiers ont péché contre l'amour de Dieu. Alors le démon afflige Dorothée de visions nocturnes terrifiantes et d'attaques corporelles, tout à fait comme au curé d'Ars ou au padre Pio, puis à tant d'autres. Il s'efforce de l'amener à blasphémer Dieu. Et c'est comme un surgissement qui vient du fond de notre corps, et ce sont des cris qui s'élèvent, silencieux, parfois sonores. Ça peut être des sacres, des blasphèmes. Plus particulièrement, même durant la messe, au moment de la consécration. C'est terrible. Elle connaît donc des souffrances indicibles, mais elle reste fidèle. À ses tourments, puis à d'autres souffrances intérieures, s'ajoute une extrême pauvreté. La famille n'a même pas le nécessaire pour vivre. Elle doit accepter l'aide de quelques amis charitables et de l'assistance publique. Alors les mains de Dorothée, qui distribuait, vous le savez, si volontiers des dons, mais maintenant ses mains s'ouvrent pour recevoir. Celle qui se considère comme la petite fiancée du Sauveur humilié apprend à supporter les humiliations de toutes sortes. Mais tous ses secours sont insuffisants. Ses parents, ses frères et ses sœurs sont consumés par la misère. Un petit frère et une petite sœur meurent peu après leur naissance. Un frère plus âgé, un enfant prédestiné comme Dorothée, dépérit, puis meurt de la mort d'un jeune saint. La mère se traîne aussi longtemps qu'elle le peut encore, mais elle sent que ça ne durera pas. Elle initie Dorothée à toutes les tâches du ménage. Elle lui montre le chemin pour les commissions nécessaires, et Dorothée est âgée de 9 ans, puis 9 ans et demi, Lorsqu'elle quitte l'école pour rester à la maison, pour vaquer exclusivement au ménage, puis soigner sa mère, et finalement son père, lui aussi, doit abandonner le travail. Le médecin déclare que la fillette, Dorothée, va succomber infailliblement à la tâche si les deux malades, son père et sa mère, sont confiés à ses soins. Alors, après des adieux déchirants, son père mourant est conduit à l'hôpital. La mère et Dorothée sont très intimement unies en ces jours de maladie, puis une prémonition intérieure donne à Dorothée la certitude de la mort prochaine de celle qu'elle aime plus que tout au monde, sa mère. Elle lui propose de recevoir l'extrême-onction, puis avec son consentement, elle s'occupe de tous les préparatifs, et pendant la cérémonie, tous les proches, la famille, sont déchirés de douleur, mais la malade, la mère, est emplie d'une grande joie. Elle a comme une joie céleste dans son regard. Et lorsque la fin approche, elle fait appeler les proches parents qui avaient tant fait pour la famille. C'était tard le soir. L'oncle et la tante insistent pour que l'enfant, épuisé de fatigue, aille se coucher. La mère fait ce grand sacrifice. Elle ne fait pas éveiller Dorothée quand vient le dernier moment. Elle se redresse seulement encore une fois, avec ses dernières forces, avant de regarder vers l'autre lit. Et Dorothée a toujours eu la conviction que sa mère l'avait bénie en ce dernier instant, comme elle l'avait promis. Lorsque l'enfant s'éveille, sa mère est morte, depuis une heure. Et c'était ça le 9 janvier 1850 au matin, 5 jours avant sa naissance, l'anniversaire de sa naissance à Dorothée. Dorothée est née le 14 janvier, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et ainsi prend fin l'histoire de son enfance. Alors Dorothée est alors recueillie à l'orphelinat des filles de la Charité de Saint-Roch. C'est une période de sa vie qu'elle considère comme une participation à la vie de Jésus à Nazareth. Avec sa mère Marie et son père Joseph à Nazareth. Là, le Seigneur continue d'être son modèle. Un amour passionné pour Jésus la possède, de telle sorte qu'il va faire disparaître peu à peu en elle toute résistance à la grâce. C'est comme ça que le Carmel lui apparaît seul capable de combler ses aspirations. Et sur l'indication même du Seigneur Jésus, c'est au Carmel de l'avenue de Saxe à Paris qu'elle entre, malgré tous les obstacles, le 27 août 1859. Elle franchit les étapes de la vêture et du noviciat, non sans rencontrer beaucoup de souffrance. Son admission au vœu lui coûte un combat plus rude encore. On prolonge le temps de la probation au-delà du carême de l'année 1861. Alors, la décision ne tient qu'à un fil. On s'inquiète à son sujet. Et puis, elle voit apparaître sa mère qui se tourne vers elle avec un sourire rayonnant. La vision disparaît. Et c'est la maîtresse des novices qui vient lui apporter la nouvelle qu'elle est admise à émettre ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est la joie. Et on fixe la cérémonie au 18 avril. Et le thème de la retraite préparatoire de 10 jours lui est donné. C'est quoi? C'est la journée d'une carmélite. On lui donne un sujet très simple, mais elle va écrire des choses sublimes. Alors, au moment où elle prononce ses vœux, sœur Marie-Aimée de Jésus se trouve dans une étrange vision. Le lieu où elle se trouve disparaît à ses yeux. Elle aperçoit, dit-elle, la Sainte Trinité. Vous direz, c'est pas possible, mais d'autres saints ont eu ces visions trinitaires, dont l'une chez nous, ici à Québec, la bienheureuse Marie de l'Incarnation, une des plus grandes mystiques de toute l'histoire de l'Église, que l'on compare encore à Sainte Thérèse d'Avila, qui est la plus grande. Alors elle aperçoit la très Sainte Trinité, puis elle voit le Fils de Dieu s'incliner vers elle et l'accepter pour épouse. Si son entourage ignore ce qui se passe dans l'âme de cette jeune carmélite, les effets d'une telle profusion de grâce ne peuvent demeurer cachés. Tout son être respire la présence de Dieu. Sa vie religieuse est formée par l'Esprit Saint jusqu'en ses moindres mouvements extérieurs. Elle ne cesse de donner des marques de sa charité fraternelle, surtout quand il s'assujette d'enflammer les autres d'un plus ardent amour de Dieu. Elle va réussir, d'ailleurs, à gagner toutes les carmélites de son couvent à un plus grand amour de Dieu. Et bientôt, des souffrances pénibles, des souffrances physiques, empêche cette jeune moniale fervente de participer aux exercices de communauté. Elle souffre aussi de ce qu'on appelle les nuits de l'âme. Ce sont des périodes d'extrême obscurité, de déréliction. Vous qui éprouvez des tels sentiments intérieurs, comme une incapacité de prier, comme un sentiment de ne plus croire, de ne plus être capable d'aimer. Pensez à elle. Pensez à tous ces saints qui sont passés par les mêmes tourments. Mais rien ne peut étancher sa soif spirituelle, cette soif spirituelle qu'elle ressent. Elle veut parcourir tout le chemin de croix avec son Seigneur Jésus qu'elle aime. Le fruit de toutes ces épreuves est une union toujours plus intime, puis une conformité toujours accrue avec Jésus. Alors, sœur Marie-Aimée, ou si vous voulez, Dorothée Quoniam, est prête à se donner totalement. En l'année 1863, paraît « La vie de Jésus » de Renan. La prieure, mère Sophie, entretient les carmélites en récréation de l'influence désastreuse de ce livre, qui s'est vendu partout, qui a été traduit partout. Elle leur en parle afin de les inciter à faire pénitence et à prier. Quelques sœurs regardent spontanément sœur Marie-Aimée parce que le travail était tombé de ses mains et son visage est devenu livide. Un tremblement la saisit. Elle semble presque s'évanouir et tous connaissent son brûlant amour de Dieu. Et on comprend donc combien sa douleur doit être profonde. Mais ce qui se passe vraiment en son âme, personne ne peut se le représenter. Dès les premiers instants de sa vie, le Seigneur a pris possession d'elle. Jésus-Christ, écrit Edith Stein, en sa divinité et son humanité, est la vie de sa vie, la plus réelle des réalités qu'elle connaisse. Elle voyait, ajoute Edith Stein, son divin époux à son côté lorsqu'elle marche dans les cloîtres. Il l'attend dans sa cellule quand elle retourne dans sa solitude qu'elle aime tant. À l'office divin, il prend place à sa gauche dans la stalle inoccupée. Maintenant, un nouvel Arius, comme je vous ai dit au début, Arius qui niait, il y a plus de 1500 ans, la divinité du Christ. Un nouvel Arius, Renan, ose nier la divinité de Jésus, le réduire à un homme ordinaire. Est-ce qu'on peut ni faire pire offense. La devise de sa vie, c'est « Tout pour la plus grande gloire de Dieu ». C'est la devise des jésuites, on apprenait ça au collège, des jésuites ad maiorem, dei gloriam. Or, cet honneur est mis en jeu, l'honneur de Dieu, et dans sa cellule solitaire, elle donne libre cours, cette jeune religieuse, un torrent de larmes. Elle se sent poussée à entreprendre, dit Edith Stein, quelque chose pour sa défense. Elle ne peut s'empêcher de se dire « Je suis son épouse et je garderai le silence. Je ne puis parler. Eh bien, j'écrirai. » Elle est volontaire. Il lui vient l'esprit que Moïse, sur la montagne, élevait les mains vers le ciel et priait, tandis que les Israélites combattaient dans la plaine. Mais il ne lui suffisait pas de prier, de souffrir et de pleurer pendant que des évêques et des prêtres combattent à découvert. Elle dit « Oui, je resterai sur la montagne, le Carmel, mais de son sommet, je crierai « Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je prierai, je souffrirai, je verserai des larmes, mais après avoir prié, j'écrirai, au besoin avec mon sang, avec mes larmes. Jésus est le Fils de Dieu. » Elle est têtue, hein? Elle saisit une plume, et elle écrit sur un morceau de papier « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Alors, raconte Edith Stein, elle est saisie par un esprit qui n'est pas le sien. Elle est inondée de lumière. Les mots se forment tout seuls. En quelques instants, le papier est rempli. Elle a commencé à prouver la divinité de Jésus-Christ par les paroles de la Sainte Écriture. Après un moment, elle s'arrête effrayée. Elle veut brûler ce qu'elle a écrit, mais ça lui est impossible. Et lorsqu'elle explique au père Gamard son désir d'engager la lutte contre Renan, c'est l'aumônier du Carmel, il reste absolument surpris. Son étonnement est énorme. Il sait bien que toute formation nécessaire à une telle entreprise lui fait complètement défaut à cette petite sœur. Mais sœur Marie-Aimée lui remet un cahier où elle a consigné de mémoire quelques explications reçues de lui 8 jours auparavant sur certaines questions concernant la vie intérieure. Il est surpris en lisant ça et il lui dit « Mes pensées y sont tellement agrandies, ma sœur, mon humble langage tellement transformé, la doctrine d'une exactitude si parfaite, que cette lecture, ma sœur, est pour moi comme une révélation. » Par suite, il se met à penser que le désir de répondre à Renan lui vient aussi de l'Esprit-Saint. Alors avant même qu'il engage sœur Marie-Aimée à écrire, elle lui avoue qu'elle a déjà commencé à le faire et ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Non seulement elle était inondée d'une profusion de lumière, mais encore sa main était d'une agilité extraordinaire et il lui avait été impossible de brûler les feuilles. Il lui dit qu'elle n'avait pas le droit de les détruire et puis lui défend de faire cela. Il se déclare même prêt à examiner les débuts de l'œuvre. Alors elle-même doit alors en solliciter évidemment la permission auprès de la mère prière, mère Sophie, et lui rendre compte de ce qui s'était passé. Comme l'examen permet les plus beaux espoirs, bien la jeune carmélite reçoit à la fois du père Gamard et de la mère prière l'ordre de continuer son étrange travail. Mais personne n'en doit rien savoir évidemment dans la maison, dans tout le Carmel. On ne lui accorde dans ce but que le temps de repos des sœurs, pour pas la singulariser. Longtemps, elle ne dispose que 1 heure par jour pour son œuvre, et à cela viennent s'ajouter toutes sortes d'autres difficultés, de souffrances qui normalement devraient compromettre la réussite. Les nouvelles maladies qui affligent son corps, son âme est remplie de doutes et de craintes. Puis, dans son entourage, il y a certains manques de compréhension. Sa situation devient plus pénible encore lorsque Mère Isabelle est élue prieure, nouvelle prieure, hein, qui doit être initiée évidemment au secret. Elle doit donner son consentement. Elle a un caractère timoré, cette nouvelle prieure. Elle n'ose pas faire interrompre l'œuvre qui a été entreprise avec l'approbation de la précédente prieure, puis d'un théologien renommé. Mais, d'un autre côté, elle est dans la crainte constante que la jeune sœur ne soit victime d'une espèce d'illusion, ça arrive. Ce qui donne périodiquement des doutes à cette femme, cette nouvelle prière, qui est profondément anxieuse. Et là-dessus, le père Gamard est rappelé à Paris. Oh! Il ne peut plus lui dispenser qu'en de rares lettres des conseils, des consolations, puis un peu d'apaisement. Alors elle se trouve un peu abandonnée. Mais aucun obstacle n'est en mesure d'arrêter l'œuvre que Dieu lui-même a inspirée et soutenue. Sœur Marie-Aimée ne s'accorde aucun instant de repos, et dès qu'arrive le temps permis, elle se met au travail, même si elle est brisée de fatigue ou accablée de douleur. Et dès qu'elle prend la plume, l'Esprit-Saint vient sur elle. Le Seigneur lui-même l'instruit. C'est ce qu'écrit la bienheureuse Edith Stein. Il ne veut pas qu'elle consulte des ouvrages scientifiques. Sans qu'elle fasse un plan, l'ouvrage se développe selon une structure claire qui ne lui apparaît qu'après coup. Alors la première partie traite du Verbe éternel dans le sein du Père et du Verbe incarné dans le sein de Marie. La seconde traite de la vie cachée de Jésus. La troisième partie de sa vie publique. Et la quatrième et dernière partie de sa passion, de sa mort et de sa vie glorieuse. Quantité de citations de l'Ancien et du Nouveau Testament s'offrent à elle dès qu'elle en a besoin. Elles lui viennent à l'esprit avec leurs références. C'est étrange. Et plus tard, une vérification en prouve l'exactitude d'ailleurs. Du point de vue théologique, tout est de la plus grande clarté, d'une grande pénétration. Et si juste, déclare Edith Stein, c'est la pure doctrine de l'Église, mais écrite plutôt dans le langage de l'amour. Et c'est ainsi qu'à chaque méditation s'ajoute une présentation de l'effet que le mystère contemplé produit dans l'âme, inondée d'amour. Ces éditions offrent d'excellentes directives pour la vie intérieure. Le Seigneur y attache une importance particulière. Le 4 juillet 1865, sœur Marie-Aimée, Carmélite de Paris, je vous le rappelle, peut annoncer au père Gamard que la dernière partie est achevée. Quant au fond, il ne trouve que fort peu matière à correction, mais la forme, on lui semble devoir être revue et corrigée. La jeune Carmélite se met immédiatement au travail. Une étude plus approfondie de l'Évangile est nécessaire pour le remaniement de son œuvre. Cette fois-ci encore, le Seigneur fait l'essentiel pour qu'elle réussisse. Il introduit sœur Marie aimée de Jésus dans tous les mystères de sa vie et de sa passion, en la laissant revivre avec lui ce qu'elle doit décrire. Cela signifie pour elle, à certaines périodes, un excès de souffrance, sous lequel sa pauvre nature succomberait sans un extraordinaire secours de grâce qui la garde en vie pour sa tâche. Elle ne peut décrire que très brièvement la vie eucharistique de Jésus, car cette vie même et en elle, la participation de l'âme unie à Dieu est une vie cachée. Après 5 ans d'un travail acharné, l'œuvre peut être achevée en la fête de celle qu'elle considère comme la Sainte Mère Thérèse, Thérèse d'Avila, le 15 octobre 1869. La jeune sœur Marie-Aimée peut alors passer le reste de sa vie toute avec le Christ en Dieu, selon son inclination la plus profonde, carmélite. Sa tâche extérieure est terminée. Ses supérieurs et ses sœurs lui demanderaient volontiers bien des éclaircissements, hein. Mais elle n'écrira plus. Pendant la guerre de 1870 à Paris, sœur Aimée est le soutien du monastère par sa confiance et sa paix intérieure. Durant les dernières années de sa vie, on lui confie la charge de maîtresse des novices, même si elle est encore assez jeune, un peu comme Thérèse de l'Enfant Jésus l'a été encore plus jeune. Dorothée Coignam, sœur Marie-Aimée de Jésus, meurt le 4 mai 1874, à 34 ans, à 9 heures du matin. Elle lève les yeux au ciel, rapporte le texte écrit à cette époque. Elle lève les yeux au ciel, sourit avec une expression de bonheur mêlée de surprise et de ravissement, et après s'être soulevée comme pour s'élancer vers celui qu'elle avait tant aimé, elle expire sans qu'on puisse saisir son dernier souffle. Ce qu'un jour elle avait chanté au Seigneur dans un hymne d'action de grâce est accompli, voici son texte. « Mon bien-aimé m'a dépossédé de moi pour que je sois plus possédé de lui. » Je suis la conquête de son amour. Il est en moi comme un fleuve de feu, entraînant mon âme dans l'océan de l'amour infini qui est Dieu. Et ainsi se termine ce beau texte d'Edith Stein, la bienheureuse Edith Stein, que j'ai un peu transformé et adapté, et qui est paru au début de ce livre, La psychologie du Christ, paru chez Pierre Tecky et qui est en vente à Montréal dans les librairies religieuses. À la fin de ce livre dont je viens de vous parler, La psychologie du Christ de Dorothée Coignam, paru chez Pierre Tecky, après le texte d'Edith Stein, il y a des extraits brefs de cet immense ouvrage dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 2 volumes par sœur Marie-Aimée de Jésus, paru chez Tecky. Je vous en lis quelques extraits pour que vous connaissiez la pensée de cette femme extraordinaire. Dorothée Coignam. Elle cite le psaume 26 au verset 8. « J'ai vu les délices du Seigneur et j'ai visité son temple. » Et elle écrit « Quels sont ces délices du Seigneur que le prophète a vus ? Quel est ce temple qu'il a visité ? Est-ce le ciel? Est-ce l'univers? Est-ce le temple de Jérusalem? Non. Le temple du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Car rien autre que lui ne peut le contenir. Qu'est-ce encore que ces délices dont parle le prophète? Les délices du Seigneur, c'est encore le Seigneur lui-même. Car avant de créer autre chose, aucune chose, il était souverainement heureux, et de même que Dieu ne peut être contenu que par lui-même, étant infini, de même il ne peut avoir d'autre objet de ses délices que lui-même, parce qu'il est souverainement parfait. Mais Dieu, dans la bonté, voulait sauver les hommes et leur donner dès ici-bas un avant-goût des douceurs de sa tendresse. Il s'est bâti un temple dont il est lui-même l'architecte. Et ce temple est sa sainte humanité, où Dieu, dans la personne du Verbe incarné, s'est rendu visible à l'homme sous le voile de la chair, parce que nul ne pouvait le voir à découvert ici-bas sans mourir. Comme vous voyez, c'est une façon claire d'affirmer sa foi en la divinité du Christ. Et c'est une réponse à l'avis de Jésus de Renan qui niait la divinité du Christ, comme d'autres ouvrages qui paraissent de nos jours, et que l'on vante et que l'on dit que c'est extraordinaire. Elle ajoute, « Ce temple est donc un temple vivant, mais de même que souvent on regarde un arbre chargé de fleurs ou de fruits, sans penser à la sève qui le nourrit, de même les hommes contemplent souvent Jésus-Christ, sans penser à l'âme qui anime et vivifie le temple auguste de son corps sacré, et cependant cette âme est le véritable objet des délices du Seigneur. Cette partie du temple du Seigneur, cette source des délices du Seigneur, à laquelle on songe peu, c'est le saint des saints de l'humanité sacrée de Jésus. C'est la source de la vie, c'est l'âme de Jésus-Christ. Dans le mystère de l'incarnation, tout doit être adoré, contemplé. Mais sur la terre, notre œil intérieur n'est ni assez fort, ni assez pur pour apercevoir, et moins encore pour approfondir tant de merveilles. Il en est cependant qu'on ne peut négliger d'entrevoir, soit parce qu'elles offrent plus d'attrait par leur beauté, plus de profit pour la piété, plus de facilité pour étudier notre Seigneur Jésus-Christ, et pour s'encourager à l'imiter. Il en est ainsi de l'âme de Jésus-Christ et de son cœur sacré. Plus loin dans l'ouvrage, étant donné que c'est l'année de l'Esprit-Saint, dit-on cette année, n'est-ce pas, pour nous préparer à l'an 2000, elle a un très beau texte sur l'Esprit-Saint. Elle cite au début, « Votre loi est au milieu de mon cœur ». Verset 11 du psaume 39. Voici ce que cette jeune carmélite écrit au siècle dernier. Le Saint-Esprit est le lien d'amour, l'amour personnel qui unit de toute éternité le Père et le Fils en son unité. Le Fils se fait homme, mais parce qu'il ne cesse point d'être ce qu'il a toujours été, le Saint-Esprit ne cesse point de l'unir à son Père. L'union de la Sainte Trinité est indissoluble, non seulement parce qu'elle n'a jamais commencé et ne finira jamais, mais parce qu'elle va jusqu'à l'unité. C'est la plus belle des vérités. En voici une qui lui est semblable. Au moment de l'incarnation du Fils de Dieu, l'Esprit-Saint s'empara de son cœur, aussi bien que de son âme, comme sanctificateur, afin d'entretenir en lui aussi bien qu'en elle, pour Dieu et pour l'homme, le feu sacré de la divine charité. Feu sacré, amour divin, qui ne pouvait ni se ralentir ni s'éteindre, le Verbe, le communiquant à son âme et à son cœur. Mais parce que le Verbe s'était fait homme, cette communication avait lieu par l'opération du Saint-Esprit, au feu sacré, amour divin, qui devait être toute la vie de son cœur, soit par rapport aux sentiments, soit par rapport aux occupations et aux dispositions, trois choses qui constituent la vie véritable de l'homme. Et finalement, plus loin, elle ajoute, le cœur de Jésus-Christ, comme l'âme qui l'animait, était dans une disposition perpétuelle d'adhésion à la conduite du Saint-Esprit. Et tandis que, divin phénix, il brûlait dans les flammes vives de l'amour substantiel, il se laissait diriger, inspirer, gouverner par le même esprit dans ses divers actes, sentiments et affections, passant de l'allégresse à l'angoisse, du tressaillement au brisement, d'un désir à un autre, des transports de la confiance aux craintes les plus douloureuses. Comment méditer des choses si grandes et si touchantes sans éprouver au-dedans de soi le désir de fixer son séjour dans cet aimable cœur pour n'en plus jamais sortir. Je vous assure, c'est un très beau livre. Je ne saurais trop insister en vous redonnant le titre, La psychologie du Christ, par Dorothée Quoniam, Q-U-O-N-I-A-M, paru chez Pierre Tequi l'an dernier, en 96, pardon. Petit livre très peu cher et très beau.